Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. C'est une émission au cœur d'une double actualité que nous vous proposons pour cette dernière de l'année. Fin novembre, c'était la semaine de la justice restaurative. La date aurait pu passer inaperçue, mais hasard du calendrier, une actualité a mis le sujet sous les feux des projecteurs. Salah Abdeslam, condamné à la perpétuité incompressible pour les attentats du 13 novembre 2015, formulait la demande auprès de son avocate de vouloir s'engager dans cette démarche. Quelques jours plus tard, 3 décembre 2025, la journée Cyberjustice Europe, organisée par l'Institut Robert Badinter, le laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal et le Conseil de l'Europe, consacrait une journée riche de conférences et ateliers à une thématique inédite, réalité virtuelle et augmentée dans la justice. Alors, justice restaurative, réalité virtuelle. A priori, pas de lien entre les deux. Eh ben si. J'ai le grand plaisir de recevoir pour en parler Adélaïde Fervac. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne, docteur en psychologie clinique à l'Université Rennes 2. Et avec moi en studio, un habitué des plateaux radio sur France Culture, mais aussi jadis ici sur Amicus. Bonjour Antoine Garapon.
Bonjour.
Vous avez eu plusieurs vies. Vous êtes magistrat honoraire, mais aussi président de la commission Reconnaissance et Réparation. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est que parmi vos nombreux écrits, vous avez notamment publié cette année chez PUF un ouvrage dédié à la justice restaurative. Pour une autre justice, la voie restaurative. Un grand merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Justice restaurative et réalité virtuelle, chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission des Temps électriques.
Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans.
Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative ?
C'est des victimes qui rencontrent des détenus.
Oui, c'est ça.
Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien. On écoute, on accueille, inconditionnellement.
J'aimerais revoir mon frère, j'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard.
J'étais agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais il y a 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses.
J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette.
J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux.
Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement ?
Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants.
On met des petites claques, c'est pour impressionner.
Mais des claques, c'est des coups.
En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie.
Assume ! Nous sors pas tes excuses débiles, là !
Tu le prépares pas, en fait ! Moi, tu me prépares ! Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers !
Cette bande-annonce du film « Je verrai toujours vos visages » exprime très bien les enjeux des échanges qui nous attendent pour parler ensemble de la justice restaurative. Après l'emploi de plusieurs termes autour de la même idée, justice réparatrice, justice reconstructive, justice transitionnelle, c'est désormais celui de justice restaurative qui semble privilégié. De quoi s'agit-il ? L'objectif ici n'est pas de punir, mais de se concentrer sur les conséquences concrètes d'une infraction, afin de permettre aux victimes de remédier aux dommages subis, de les aider ainsi à reconstituer le lien social via un processus qui se veut interlocutoire, collaboratif et inclusif avec l'auteur de l'infraction. C'est dans les années 1970 que les modalités traditionnelles de prise en compte du phénomène criminel se heurtent à une crise des systèmes de justice pénale, conduisant à envisager des réponses différentes aux comportements délinquants. Cette idée prend forme dans de nombreuses expériences internationales, trouvant ses sources outre-Atlantique, aux États-Unis, au Canada. En France, la justice restaurative n'intégrera officiellement le Code de procédure pénale à l'article 10-1 qu'à l'occasion de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. Constitue une mesure de justice restaurative, toute mesure permettant à une victime, ainsi qu'à l'auteur d'une infraction, de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. On comprend donc que l'on est face à ce que certains auteurs qualifient de nouveau paradigme de la justice pénale, face surtout à un process unique, symbolique, qui s'articule souvent autour d'une rencontre porteuse de sens pour une victime et un condamné. Cette rencontre, fondée sur une acceptation mutuelle et réciproque, n'est qu'une facette de la justice restaurative, sa préparation étant tout aussi essentielle, on l'a entendu à l'instant dans l'extrait diffusé. Désormais, au service de ce processus, on se tourne vers des outils immersifs de réalité virtuelle. Le recours à ces outils dans la justice s'intensifie en effet aujourd'hui. Alors, pour décrypter ensemble les promesses de cette technologie au service de la justice restaurative, je donne la parole dans un instant à nos invités.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence.
Simon and Garfunkel, pour commencer cet échange, The Sound of the Silence. Oxymore, ou au contraire, formule plutôt juste, pour évoquer ensemble ce défi, faire parler ensemble les non-dits, réunir pour reconstruire ce qui peut l'être auteur-victime d'infraction, Antoine Garapon. En complément de la définition sommaire que j'ai donnée dans les propos introductifs, est-ce que vous pourriez revenir, avec quelques exemples peut-être, sur ce que permet cette justice restaurative? Comment ça se passe concrètement?
Comment ça se passe, et d'ailleurs comment elle fonctionne, et sa première caractéristique, la plus importante peut-être, c'est qu'elle est centrée autour de la victime. Et ça nous oblige à tous les acteurs du procès pénal et de la justice en général, ça nous oblige à réorganiser notre pensée, parce qu'on se rend compte que tout tournait autour de l'auteur et de la punition, à travers une audience et des garanties formelles. Et la justice restaurative, eh bien, elle prend le contre-pied en partant de la victime, de ses besoins, de ses aspirations. Je préfère le mot aspiration au mot besoin. Et pour ça, il faut les entendre, et les entendre pour ensuite y répondre par une rencontre. Alors cette rencontre, elle a plusieurs modalités. Vous l'avez rappelé dans votre chapeau, c'est qu'il y a la justice restaurative, mais il y a beaucoup d'autres pratiques. Et donc reposer sur une rencontre dans laquelle chacun va pouvoir dire sa vérité. Et le court extrait de « Je verrai toujours vos visages » le montre bien. Voilà. Donc c'est une rencontre en chair et en os, je le précise pour notre émission d'aujourd'hui, parce que ça veut dire que a priori c'est le contraire d'une rencontre virtuelle. C'est pas pour autant que ces instruments peuvent pas nous servir. Et je pense, pour la résumer, les mots du législateur sont assez justes. C'est comment participer activement à sa reconstruction, comment satisfaire son aspiration à la justice. Et beaucoup de victimes disent, en fait, j'ai l'impression que le processus judiciaire aujourd'hui, il consiste en une sorte de délégation forcée de sa parole. D'abord aux policiers qui recueillent la parole, ensuite les avocats, puis les psys, et puis les artistes, parfois dans le cas de V13. Bref, des tas d'acteurs qui vont, en raison de leur savoir, me déposséder de ma parole et à travers ma parole, elle dépossède la victime de la capacité d'être active dans son procès.
Alors cette place de la victime justement dans le procès pénal, c'est ce qui est remis au centre ici. Quelle est la place de cette justice restaurative dans l'histoire du procès pénal ?
Elle n'est pas très grande. Bah, bien sûr, elle n'est pas très grande parce que le procès pénal, il tourne autour de l'accusé, de la personne, et c'est tout à fait normal dans la tradition dont on vient. Mais on est peut-être en fin de cycle. On est peut-être en fin de cycle, justement, d'un cycle qui a commencé il y a très longtemps, où le prince, l'autorité publique, le roi, la République, appelons-la comme on veut, se substituer à la victime en disant oui, elle a été victime, mais moi, législateur, souverain, ma souveraineté est blessée par cette agression. Donc je me substitue à elle en faisant deux choses, en monopolisant la vengeance et en excluant le pardon. Et aujourd'hui, pour des tas de raisons, on est en fin de cycle. Parce que la justice étatique en peut plus, elle n'a plus les moyens. Elle n'a plus les moyens, d'abord en personnel, en dotation budgétaire, etc. Mais elle n'a plus les moyens non plus parce que ces manières de répondre par un combat, par une confrontation argumentative, mais aussi une confrontation personnelle, où parfois il faut surjouer son agressivité, ne convient plus justement à ce qu'attendaient les victimes.
Alors, par rapport à cette finalité, cette rencontre que vous placiez effectivement au centre de cet objectif de justice restaurative, en amont, il y a quand même tout un travail de préparation. Et c'est là qu'une distanciation, un recul est nécessaire par rapport à l'infraction pour arriver à s'exprimer dessus, pour arriver à faire la part des choses. Alors, Adélaïde Fervac, avec vous, on va s'intéresser à la façon, effectivement, dont le numérique vient prendre sa place ici, dans le processus, par une technologie que vous allez nous présenter, ce qu'on appelle la réalité virtuelle. Pour comprendre déjà techniquement de quoi il s'agit, est-ce que vous pourriez nous dire de quel outil on va parler ensemble ?
Oui, bien sûr, on va parler donc de ce qu'on appelle la réalité virtuelle, que vous allez aussi probablement m'entendre surnommer RV. Puisqu'on aime souvent les acronymes dans les recherches. Donc la réalité virtuelle, en fait, ça va être le plus haut niveau actuellement de ce qu'on appelle la réalité étendue. Pourquoi c'est le plus haut niveau ? Parce que dans la réalité virtuelle, il va y avoir notamment l'obstruction de la vision, ce qui va permettre de caractériser la RV comme immersive. C'est notamment le port du casque de réalité virtuelle, que vous connaissez notamment par rapport aux jeux vidéo, qui peuvent aussi bénéficier de ce genre de casque et de ce genre de réalité, mais qui va du coup permettre l'immersion de la personne au sein de la réalité virtuelle.
Alors effectivement, on connaît les jeux vidéo, enfin on connaît, du moins on visualise si on n'y joue pas le gamer avec son casque. Alors on comprend le mécanisme, mais de là, comment l'outil peut être utilisé au service de cette justice restaurative ? En quoi ça permet d'espérer un changement de comportement de l'utilisateur, du porteur du casque ici.
En fait, ce qui va se passer, c'est que le fait que le système de réalité virtuelle amène l'individu à plonger dans un environnement qui est totalement virtuel, ça va conduire l'individu à finalement générer, ressentir un sentiment de présence, donc de présence dans un monde virtuel pour le coup. Et c'est notamment ce point-là qui va permettre l'efficacité de la réalité virtuelle. Cette efficacité-là, elle peut intervenir à différents niveaux, puisque notamment depuis une quinzaine d'années à peu près dans le champ de la santé mentale, la réalité virtuelle commence à être mise en application pour de la prévention ou pour de l'accompagnement sur différentes problématiques. C'est-à-dire que, a priori, les études tendent à montrer que la réalité virtuelle, donc cet outil d'immersion, va permettre de travailler un certain nombre de cognitions, d'éléments, de comportements, d'attitudes qui sont alors dépendants d'un certain nombre de facteurs extérieurs comme à chaque fois, mais qui peuvent, dans le cadre de la réalité virtuelle, être travaillés puisqu'on permet aux personnes d'être confrontées à des scènes qui peuvent être considérées comme des scènes entre guillemets réelles, c'est-à-dire des scènes de la vraie vie qu'on pourrait vivre dans la vie courante. Et donc, les études, en fait, vont montrer que le fait d'être plongé dans cette réalité virtuelle, d'utiliser cet outil-là, peut avoir un impact positif, notamment sur des personnes qui ont été condamnées pour des faits de violence, et en particulier dans le cas de violence conjugale, mais on y reviendra juste après. Mais l'idée, en fait, c'est que les études tendent à montrer que cet outil-là permet d'améliorer un certain nombre d'éléments, notamment au niveau émotionnel, au niveau de la gestion émotionnelle, au niveau de l'empathie, mais en fait, surtout, j'ai envie de dire, ça permet aux personnes de se sentir et de se mettre à la place des victimes, puisque dans le cas des outils de réalité virtuelle, dans le milieu de la recherche pour de la prévention de la prise en charge d'auteurs ou de victimes, effectivement, ça va bien être des scènes de violence où sont présents des auteurs, des victimes, voire des témoins parfois.
Alors, sur ce travail sur l'empathie que vous évoquez, l'exemple, ben, on peut y venir maintenant, des violences conjugales. Comment on travaille concrètement sur cette question de l'empathie dans cet exemple que vous indiquez là ?
Mais typiquement, alors ça peut être soit à travers l'outil de réalité virtuelle et donc à travers le film ou les scénettes ou le scénario qui est visualisé, en plus d'un accompagnement bien évidemment par des professionnels extérieurs, mais c'est principalement en fait l'immersion en RV qui va permettre de venir travailler cette empathie-là, puisque le fait que la personne ne soit plus dans sa place mais incarne, en l'occurrence ici, la victime, ça va lui permettre de comprendre aussi certains comportements, de visualiser certains comportements et d'avoir des réactions émotionnelles notamment, qui peuvent être celles d'une victime. On constate notamment dans les recherches qu'il y a une majorité de la... Enfin, que les auteurs, quand ils sont confrontés à la réalité virtuelle, les études vont tendre à montrer qu'il y a une augmentation de la peur, notamment quand ils sont dans la position de la victime. Ce qui amène en tout cas à penser qu'il y a bien un effet de la réalité virtuelle sur les émotions, sur les sentiments, sur ce qui est ressenti, et que du coup on peut derrière aller travailler ces éléments-là par la suite avec la personne.
Alors, endosser la place de la victime telle que vous le présentez, je crois que c'est effectivement une des fonctionnalités, je ne sais pas si on peut l'exprimer comme ça, mais de l'expérimentation sur laquelle vous travaillez. Après, il y a d'autres positions que la personne peut prendre, enfin que le casque peut lui permettre de vivre. Il n'y a pas que cette position de victime, je crois.
Non, effectivement. Après, tout dépend des recherches qui sont faites et de l'objectif aussi de ces recherches-là. Mais effectivement, dans le travail qu'on mène actuellement, la personne va en fait se retrouver confrontée à 12 scènes au total dans le film. Premièrement, ils ont d'abord un regard extérieur. Ensuite, ils vont avoir une scène dans laquelle ils incarnent l'auteur, mais dans lequel l'auteur ne commet pas de violence, aucune violence, ni verbale, ni psychologique, ni physique. Et par la suite, les personnes placées sous main de justice qui participent à cette étude-là vont être pendant 3 scènes dans la peau d'Andrea, qui est la femme victime des violences conjugales de son mari. Puis, après avoir incarné Andrea pendant 3 scènes, ils vont incarner Matteo, qui est l'enfant du couple et qui lui est victime, témoin des scènes de violence entre ses parents.
Peut-être juste pour resituer le contexte de l'expérimentation, concrètement, c'est une expérimentation où vous évoquez des personnes condamnées. Et est-ce que vous pourriez un peu plus précisément indiquer ce dont il s'agit du point de vue du film, pour que les auditeurs comprennent ce que c'est?
Ouais. En fait, l'expérimentation qui est actuellement en cours, c'est une expérimentation qui s'appelle REVIE, qui est menée donc avec différents laboratoires de recherche en psychologie clinique et sociale et avec l'administration pénitentiaire. C'est une recherche qui a vu le jour en 2019, puisqu'il y a une collaboration en fait, qui s'est mise en place entre l'administration pénitentiaire et puis une entreprise qui crée des films en réalité virtuelle, ce qui a permis en fait d'aboutir à l'outil dont je vous parle depuis tout à l'heure, ce film en 12 scènes précisément. Et cette création-là a mené en 2021 au lancement d'une première expérimentation donc sur 4 sites volontaires de l'administration pénitentiaire, donc au sein de ce qu'on appelle des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Et puis, cette première expérimentation-là a permis d'aboutir à certains constats, mais qui n'étaient pas suffisamment assis, puisque le nombre de participants ne permettait pas d'aller sur des généralisations de résultats. Donc, ça a amené à ce qu'en 2023, il y ait une seconde expérimentation de cette étude pilote qui soit mise en place et sur laquelle on est encore en train de travailler actuellement. Donc, on recueille des données qui sont en train d'être analysées actuellement, mais ça a permis du coup de proposer donc cette recherche qui s'appelle REVIE. Cette recherche, elle a deux objectifs. En fait, son premier objectif, c'est vraiment de pouvoir aller évaluer finalement l'impact d'un outil de réalité virtuelle sur différents facteurs de violence conjugale. Et pour ça, c'est de pouvoir du coup permettre à des personnes placées sous main de justice pour des faits de violence conjugale ou de violence intrafamiliale, pour qu'ils puissent bénéficier donc de cet outil-là et que la recherche en fait aille regarder, si on peut le dire comme ça, même si c'est pas très beau, si il y a des évolutions entre le moment où on a pris certaines mesures que je vais préciser après, mais où on a pris des mesures sans que les personnes n'aient été confrontées à l'outil de réalité virtuelle et puis on va reprendre des mesures après. On essaye donc de voir quels changements il y a pu avoir et si les changements qu'on s'attend à trouver sont bien présents à la fin de l'expérimentation.
D'accord. Peut-être juste avant que vous précisiez ces mesures, je me permets juste de vous interrompre parce que je voudrais recueillir ici l'avis d'Antoine Garapon, juste sur la question du rapport à l'image. Parce qu'avant que vous précisiez les mesures, on peut aborder globalement cette question du rapport à l'image. Parce que là, si on comprend bien l'expérimentation, voir les faits ici, on a une mise en scène qu'on estime pouvoir modifier la perception que l'auteur peut avoir eu de l'infraction, ou peut encore en avoir d'ailleurs, parce qu'on entend souvent que il y a un travail à faire sur cette perception de l'infraction. Alors Antoine Garapon, vous avez beaucoup travaillé pour votre part sur la notion de rituel judiciaire. Je vous laisserai définir la notion. Vous avez montré en quoi l'usage des nouvelles technologies modifie parfois ce rituel. Notamment, un exemple différent, la diffusion d'enregistrements audiovisuels lors des audiences provoque des modifications du cadre spatio-temporel parce qu'on introduit à un moment donné des paroles, des images qui sont prises à un autre moment du temps procédural. On peut avoir un peu le même constat lorsqu'on a des casques de réalité virtuelle qui commencent à être utilisés dans d'autres contextes. On en parlera d'ailleurs dans une autre émission. On a des casques qui sont utilisés lors des reconstitutions sur des scènes de crime. C'est un autre sujet. Mais ici, dans la mesure où la justice restaurative propose déjà de faire un pas de côté par rapport au rituel classique du procès pénal, qu'est-ce que vous pensez de l'impact de la réalité virtuelle au service de la justice restaurative dans le rituel ? Est-ce qu'on a un changement au carré ?
Non, pas tellement, parce que là, on reste dans le cadre assez classique, assez traditionnel du traitement des détenus et de leur faire prendre conscience de la réalité à travers une réalité virtuelle. Et c'est dans un cadre de suivi de peine, donc c'est dans un cadre pénitentiaire centré sur l'auteur, en fait, sur l'auteur et sur la possibilité. Ce qui est intéressant dans ce programme de recherche, c'est de pouvoir bénéficier d'un outil qui va apporter un peu d'objectivité, des mesures, ça existe dans d'autres domaines d'ailleurs, pour essayer d'établir quel est le degré de prise de conscience et derrière la prise de conscience d'amendement, quoi, de prise. Alors ça, c'est vraiment, c'est très pénal, pénitentiaire, centré sur l'auteur. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la justice restaurative, parce que la justice restaurative, tout mise sur la présence physique, sur l'effet de présence. Il y a beaucoup de c'est mon expérience professionnelle de juge, c'est qu'il y a beaucoup de délinquants, de personnes condamnées, pour lesquelles c'est plus facile de voir et de s'affronter au procureur, à la loi, que de regarder en face ses victimes. parce que c'est ce qu'elles cherchent à éviter, de regarder en face leurs victimes. D'ailleurs, c'est bien dit dans le film, je verrai toujours vos visages. Donc là, on est dans une perspective assez classique, et je vois quoi, dans le cadre d'une politique publique, ça peut faire diminuer le nombre de victimes, ce qui est très bien, mais on n'est pas du tout dans une perspective de rencontre, où la rencontre, c'est une dynamique qui est complètement différente, et une dynamique qui vient précisément de la mise en présence des auteurs et des victimes, alors sur certaines modalités, et qui ont beaucoup d'autres finalités que la prise de conscience.
C'est ça, ici on est sur une rencontre virtuelle dans un premier temps du moins, parce que vous l'écrivez, il faut contempler ensemble le désastre pour élaborer ensemble le terrible.
Oui.
Cette idée du ensemble ici, elle est différente dans la mesure où on rassemble, mais virtuellement, dans un premier temps.
Surtout que ce n'est pas vraiment la réalité. J'ai vu en avant-première le film Nuremberg, il y a cette séquence très, très célèbre qui a été beaucoup travaillée par les chercheurs. C'est-à-dire cette séquence où les 21 accusés de Nuremberg regardent ensemble le film tourné par l'armée américaine et par John Ford, entre autres d'ailleurs, sur les camps de concentration. Donc ils regardent l'horreur. Et d'ailleurs, ça faisait partie de la catharsis du procès. D'ailleurs, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait comme une réalité, comme quelque chose déchu? Et on sait que dans le crime contre l'humanité, l'un des ressorts du crime contre l'humanité, c'est l'absence d'imagination d'autrui. C'est-à-dire beaucoup de violences interpersonnelles entre les personnes naissent de là. C'est-à-dire je n'arrive pas à m'imaginer l'autre. Et c'est parce que je n'arrive pas à m'imaginer l'autre que je peux montrer une telle violence à son égard. Alors je crois que c'est ça que je cherche à combattre et à évaluer. Je ne sais pas si Adélaïde Verbac sera d'accord avec ça. C'est surtout un instrument d'évaluation et de début de traitement, cette confrontation à l'image virtuelle. Mais je pense que la justice restaurative, c'est une toute autre dynamique.
Non, justement, Adélaïde Verbac, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Je suis plutôt d'accord en soi, dans la mesure où, à mon sens, mais ça n'engage que moi, bien évidemment, et plutôt sur le versant psychologue, si on peut le dire ainsi, effectivement, c'est un outil, et ça reste un outil de prise en charge et d'accompagnement. Un outil pour effectivement lutter contre de la récidive, c'est l'enjeu principal autour des violences conjugales, puisqu'on sait que c'est des délits et des crimes qui malheureusement font l'objet de beaucoup de récidives, mais c'est aussi un outil de prévention à différents niveaux, qu'il soit de la prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Mais effectivement, on n'est pas forcément dans une rencontre, ou alors peut-être dans une rencontre avec soi-même.
Et alors, dans la lignée, idée peut-être étonnante, saugrenue, je ne sais pas, est-ce que des victimes sont parfois mises à contribution dans l'élaboration des films dont vous parlez, ces films de sensibilisation qui seraient ensuite diffusés aux auteurs d'infractions? Alors évidemment pas en tant qu'acteur, hein, ce n'est pas mon propos, mais dans la conception du film, est-ce que c'est aussi une forme de participation possible qu'on offre aux victimes, ou est-ce que ce n'est pas envisagé?
Pour le coup, je suis désolée, je ne pourrais pas répondre, dans la mesure où on n'a pas été à l'origine de la production du film. Pour autant, j'ai envie de répondre quand même qu'il y a un certain nombre de victimes pour lesquelles l'art ou le fait de réfléchir, de contribuer à la cause, à la prévention, le fait de pouvoir expliquer aussi ce qui a été vécu, vient effectivement jouer une vraie fonction pour elles de résilience et de réparation. Est-ce que là, dans ce cadre-là, ça a été pensé comme ça? Je pense pas, d'autant plus que dans la plupart des études, ce n'est pas des acteurs, mais c'est bien des avatars numériques qui sont la représentation du participant, à la différence là pour le coup de Revie, où c'est des acteurs qui jouent les personnages. Mais je n'ai pas forcément le sentiment que ce soit pensé, en tout cas dans cette vision-là, de, entre guillemets, un parallélisme qu'on pourrait faire avec le soin de la victime-père, si on peut le dire ainsi.
Antoine Garafon.
Oui, c'est un peu ce que un philosophe allemand appelle l'autrui généralisé, c'est-à-dire c'est l'autre, mais l'autre avec un petit a. Le problème d'une relation pathologique, toxique, entre un homme et une femme, ou entre deux hommes ou deux femmes d'ailleurs, c'est avec elle, avec un E majuscule. Et donc, c'est cette histoire, il y a un passif, il y a une accumulation d'agressivité, de violence, et c'est très important dans la justice restaurative. Moi, je pense, quand on parle de rencontre, ça peut avoir un petit côté gnangnan, on se retrouve. Non, ça peut être très dur. Hein. Et je pense à quelque chose que j'ai vu au Canada, où une femme, et je comprends ça très bien d'ailleurs, une femme a voulu... 80% des victimes de violences sexuelles ou familiales souhaitent revoir leur agresseur, dans un cadre sécurisé, bien entendu, souhaitent le revoir pour leur dire, et en l'occurrence, c'était une femme, le mari avait été condamné à une peine de 15 ans de réclusion criminelle, donc c'est grave, et elle a voulu le revoir pour lui dire, regarde ce que tu m'as fait, regarde-moi, je m'en fous de ce que tu comprends, de ce que tu vas retenir, ça c'est ton problème, mais moi je veux que tu vois ce que tu as fait à moi et à notre enfant. Et ce que j'entends par là, et ce que je vois très souvent dans ma pratique de justice restaurative, c'est ce que j'appelle la réunion-séparation. C'est-à-dire que séparés, les gens le sont, oui, mais ils sont mal séparés. Ils n'ont pas le temps de se dire certaines choses, des choses importantes. Et donc, la justice restaurative, elle mise beaucoup sur rencontrer précisément la partenaire qui était à la fois indispensable et insupportable, comme dans toutes les dynamiques de violence.
Et ça, pour préparer cette rencontre et pour rétablir cette circulation-là de la parole, à ce moment-là, effectivement, que ces outils immersifs peuvent préparer, finalement, peut-être.
Alors, oui, j'y crois pas beaucoup, ça, pour préparer. Non, j'y crois pas beaucoup, parce que c'est très bien vu dans le film, Je verrai toujours vos visages. Chloé, elle va voir son frère.
Oui.
Ça lui demande... Mais c'est son frère, c'est ça qui lui demande un très grand courage. Et dans le fond, les échanges sont assez pauvres. Et elle lui dit, voilà, j'ai réussi à te dire ça, maintenant, sous-entendu, elle lui dit, vas-y, travaille. Travaille-toi avec ça, avec ce que je t'ai dit. Maintenant, c'est dit, tu l'as entendu de ma bouche, c'est l'expression. Et donc, moi, je vais en paix parce que dans le fond, cette réunion-séparation qui est très bien mise en scène dans le film, c'est beaucoup plus fréquent. C'est beaucoup plus fréquent que la rencontre où on arrive à se comprendre un peu. Là, voilà. Et je crois que c'est précisément... Si vous voulez, j'ai peur d'une sorte d'artificialisation parce qu'il y a des gens qui sont très calmes tant qu'ils ne voient pas leur ex. C'est leur ex qui les fait, qui leur fait peur ou qui les fait paniquer ou redevenir agressif.
Oui, donc la rencontre au travers d'un casque, toute immersion qu'elle soit, n'est pas forcément suffisante dans cet échange.
Alors, je comprends très bien l'objectif de recherche et je trouve qu'il faut voir ce que l'intelligence artificielle et les études cliniques vont apporter à cela. Ça, je le comprends très bien. Je me méfierais à ce qui n'est pas le cas de cette recherche, André Vertot, mais c'est sur un mauvais message de mélanger les relations artificielles avec les vraies relations. Ce qui est difficile, c'est les vraies relations. Ce qui est difficile, c'est le face-à-face, même sécurisé, d'arriver à sortir des choses et de soi et de les faire comprendre à l'autre. Et ça, je crois que c'est vraiment le principe de la justice restaurative.
C'est d'autant plus prégnant sur ce sujet, effectivement.
Bien sûr, bien sûr, et bien sûr.
Adélaïde Fervac, alors même si effectivement les résultats de l'expérimentation que vous évoquez ne sont pas encore diffusés, même si donc comme ils ne sont pas encore diffusés, vous ne pourrez pas en faire part évidemment dans leur intégralité, est-ce que néanmoins cette expérimentation avec les avantages et les limites qu'elle porte suscite des espoirs peut-être pour d'autres parcours de réinsertion? Est-ce que vous percevez déjà vous mais des espoirs et peut-être à votre égard des limites à cette utilisation dans le contexte carcéral?
Des espoirs, évidemment. Je pense que sinon, on ne tendrait pas non plus à essayer
dans d'autres
de
contextes
des nouvelles formes d'accompagnement
que la violence conjugale.
Oui. Déjà, sur la question de la violence conjugale et notamment de cette recherche-là en particulier, on s'attend effectivement à ce qu'il y ait des améliorations, notamment en termes d'identification et de gestion émotionnelle, sur l'impulsivité également, et puis de façon assez logique sur l'empathie. Un résultat sur lequel on ne s'attendait pas forcément ou sur lequel on n'avait pas forcément de mesures particulières, mais qui ressort quand même assez régulièrement, et notamment sur les prises en charge collectives, c'est que beaucoup de PPSMJ, et on le sait aujourd'hui avec les recherches, ont eux-mêmes été des enfants, en fait, victimes de violences conjugales. C'est un sujet qui est très compliqué à aborder pour eux, sur lequel ils vont peu. Le film permet justement d'aller sur sur ce vécu-là, et donc de permettre aussi de travailler un peu différemment les choses, parce que de réinscrire aussi cette violence-là dans un parcours et dans une histoire. Donc sur ça, il y a quand même des résultats qui sont relativement encourageants. Il y a nécessairement des limites, comme pour tout outil et comme pour tout, comme pour toute recherche. Ici, ça va en particulier être le fait que, comme c'est des acteurs, justement, c'est pas nécessairement adapté à tout public, ou toute personne ne va pas nécessairement s'identifier aux acteurs qui sont dans le film, parce que bah effectivement c'est une couleur de peau, c'est pas plusieurs, c'est un type d'habitation, c'est pas plusieurs, c'est un stéréotype entre guillemets, si on peut le dire comme ça, du couple ou de la vision du couple, etc., etc. Mais en tout cas sur la violence conjugale et la réalité virtuelle, ce qui peut en être dit. Après effectivement la réalité virtuelle, elle ouvre aussi des possibilités de prise en charge dans d'autres champs, notamment de la santé mentale, puisque ça reste mon domaine, en particulier sur tout ce qui va être addiction. Il y a des recherches qui ont été faites hein, sur notamment ce qu'on appelle le craving, donc qui est vraiment le moment où il y a cette pulsion de consommer, et où la réalité virtuelle montre des résultats quand même assez encourageants. Sur le cyberharcèlement également, il y a aussi de la réalité virtuelle qui peut être mise en place pour de la prise en charge d'auteurs d'infractions à caractère sexuel, donc avec une prise en charge un peu différente, où ça ne va pas être d'être confronté à des films, mais ça va être de travailler un peu les sphères de vie dans un milieu immersif. Et puis, on va aussi voir que la réalité virtuelle fonctionne plutôt bien sur tout ce qui est troubles anxieux et phobie, parce que ça permet aussi de se projeter et d'anticiper ce qui peut se passer dans le réel quand il y a confrontation à la phobie ou à ce qui peut générer de l'angoisse.
Alors la question, l'exemple du cyberharcèlement est intéressant, je vais y revenir dans un instant, mais juste avant, je crois qu'Antoine Garabon voulait réagir.
Oui, c'est-à-dire que dans la justice c'est une rencontre, alors qu'elle soit dans la confrontation comme dans le procès, ou qu'elle soit plus pacifique comme dans la justice restaurative, et en fait, dans les deux cas, la préparation est extrêmement importante. On attend, on a peur, on est anxieux avant, il y a l'aller vers, la venue ensemble dans un lieu, c'est pour moi très très important. Et je vois dans la justice restaurative, la première fois qu'on dit, mais est-ce que vous aurez envie de revoir votre agresseur ou un membre de l'église qui vous a agressé ? Ah, certainement pas, des colères, des réactions. Et puis, après tout un travail, dans une perspective d'une relation plus apaisée, ben, ça devient impossible. Et donc, je dirais, je comprends très bien les applications thérapeutiques, hein, pour le coup, parce qu'on est dans le rapport à soi, comme le disait Adélaïde Verbac. Mais dans la justice, qui est par définition une confrontation à l'altérité, je pense que il ne faut pas s'équiper d'un masque. Au contraire, c'est plutôt l'opération « balai masque ».
Bah, les masques. Alors juste sur la question du cyberharcèlement, effectivement l'exemple que vous preniez, je crois, fait référence à des travaux qui sont effectivement assez novateurs. C'est le professeur Nicolas Malouane qui évoquait ça également lors de la journée cyberjustice au Conseil de l'Europe. C'est des travaux qui sont menés, alors elle est enseignante-chercheur en psychologie légale au Royaume-Uni, et effectivement c'est des travaux qui conduisent dans un premier temps à travailler sur le harcèlement dans le cadre du métro, puis après progressivement à la question du passage à l'acte dans le cadre du cyberharcèlement, donc en ligne, pour essayer d'apprécier comment, et ben effectivement, en ligne, sur la toile, l'impulsivité peut être peut-être plus facilitée, les raisons du moins de ce passage à l'acte, parce qu'il y a un problème de prise de conscience des conséquences de leurs actes par les auteurs du cyberharcèlement. Sur ces infractions cyber, Antoine Garapon, est-ce que vous voulez réagir ?
Oui, je pense à une expérience très intéressante de justice restaurative à l'école. Ça se développe beaucoup, quoi. Ça se développe en France, et c'est très développé en Angleterre, et ça devrait l'être plus en France. Et je pense à une méthode qui consiste à faire lire, en cas de harcèlement par texto, par les réseaux sociaux, de faire lire au harceleur, en public, tout haut, à sa destinataire, mais en présence des parents, de ses parents, des parents de la destinataire, des profs, et puis de toute la méthode du cercle restauratif. Simplement, vas-y, relis ce que tu as dit.
Donc là, il y a un public, il y a la recherche d'un public.
Il y a un public, et puis un public qui n'a pas tellement désiré. Donc on sort de l'entre-soi, on sort de cette fausse interlocution que sont les réseaux sociaux, pour trouver la véritable interlocution sociale qui fait que ce qu'on dit, ça doit être audible par d'autres. Et je trouve ça intéressant, et c'est la seule sanction, il n'y a pas d'autre sanction. Et ça, c'est assez efficace, ça s'avère assez efficace. Donc dans le cas de... Ce que je trouve intéressant dans la réalité virtuelle, dans ces expériences dont nous parle Adélaïde Vervac, c'est que, par exemple, dans le cyberharcèlement dans le métro, c'est pour donner une existence sociale, finalement, en le mimant. Voilà ce que c'est. Vous croyez que c'était juste des jeux ? Ben non, c'est du cyberharcèlement. Mais c'est différent.
Alors pour terminer et ouvrir cet échange, est-ce que vous voulez aussi réagir à Adélaïde Vervac sur cette question de l'impulsivité que vous avez évoquée, la pulsion violente et cette gestion plus globale liée aux outils de réalité virtuelle ? Est-ce que vous voulez avoir les mots de la fin sur cette idée ?
Mais juste dire que les émotions, elles apparaissent de manière normale. Ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. Mais par contre, une gestion émotionnelle efficace, ça se travaille à tout âge. Et le plus on aura d'outils pour... qui soient les plus adaptés et pour aider au mieux les personnes, au mieux ce sera.
Merci à vous deux pour cet échange. On a compris que c'était des outils d'aide. Ça, évidemment, ça ne résout pas tout. Les masques aussi, c'est peut-être l'expression qui symboliquement résume ici le fait que c'est en avançant non masqué qu'on fait avancer les choses sur cette justice restaurative. Merci encore.
Merci, au revoir.
Simon & Garfunkel ou Beatles, je ne sais pas si le soleil revient, mais en tout cas, sont plus optimistes pour terminer cette émission, avec la lecture d'un extrait d'article, article issu de Philosophie Magazine, publié le 15 mai dernier et écrit par Octave Larmagnac-Matteron.
Aux États-Unis, Christopher Pelquet est tué par Gabriel Paul Orcasitas en 2021, après une altercation sur la route. Le voilà pourtant qui s'exprimait, il y a peu, lors du procès. À Gabriel Orcasitas, l'homme qui m'a tiré dessus, c'est dommage que nous soyons rencontrés ce jour-là dans ces circonstances. Dans une autre vie, nous aurions probablement pu être amis. Ces mots ne sont pas, en fait, ceux de Pelquet, mais ceux d'un avatar numérique, un deepfake. Une vidéo réalisée par intelligence artificielle qui imite les expressions faciales et la voix d'un individu. L'avatar a été autorisé à s'exprimer par le juge Todd Lang. À l'origine de cette initiative, la sœur de Pelquet, Stacy Wells, qui espérait faire du procès une œuvre de guérison. L'avatar de Pelquet, à la fin de son discours écrit par Wells, lance « Je crois au pardon » et à un Dieu qui pardonne. Je l'ai toujours fait et je le fais encore. Selon le juge, le pardon accordé à M. Orcasitas reflète parfaitement la personnalité de M. Pelquet.
Alors, extrait insolite, Antoine Garapon, on l'a dit, le pardon vise une place importante dans la justice restaurative. Vous le dites dans votre ouvrage, malgré tout, est-ce qu'on peut demander pardon à un mort? Est-ce qu'on peut aussi demander pardon pour un mort?
Cet extrême me semble tout à fait illustratif de tous les mythes modernes, contemporains. Le premier mythe, c'est de croire, finalement, les techniques numériques entretiennent le rêve qu'on va maîtriser les relations. On va maîtriser les relations, soit en s'évitant, soit en les convoquant lorsqu'elles ne sont plus possibles. Et dans le fond, derrière ça, il y a un refus du tragique. Et je crois que l'expérience de la mort, et encore plus celle du crime, c'est l'expérience du tragique, de l'irréversible, de l'irréparable, et que la condition humaine, elle est faite de ça. Elle n'est pas faite de rêves, et il me semble qu'il y a un mélange des genres qui, en plus, fait intervenir le pardon, qui est encore d'un autre registre, qui est le registre du religieux, qui, à mon avis, n'a rien à faire dans une cour de justice.
Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des Temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Adélaïde Fervac, psychologue clinicienne, docteur en psychologie clinique à l'université Rennes 2. Et Antoine Garapon, magistrat honoraire, président de la commission Reconnaissance et Réparation, auteur cette année de l'ouvrage « Pour une autre justice, la voie restaurative ». Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique « Les Temps électriques ». Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Léobardo Arango. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour débuter l'année avec deux émissions sur une série spéciale où la question des cold cases rejoindra les questions scientifiques et numériques. N'oubliez pas de vous abonner d'ici là à cette émission sur le site d'Amicus Radio. À très bientôt.